Good Morning Business, le grand débat.
Le grand débat, beaucoup de sujets ce matin et d'ailleurs on a beaucoup d'invités, c'est pour ça. Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Île-de-France et du think tank Étienne Marcel est avec nous. On est avec Arnaud Aimé, associé chez SIA Partner, Jean-Marc Daniel et Jean-Marc Vittori. Pourquoi ? Parce qu'on a des sujets extrêmement concernants ce matin, la fin du véhicule thermique en Europe. On avait tous écrit 2035 sur notre agenda. Depuis hier, on a rayé, après ce revirement allemand. Justine Vassogne, vous avez enquêté auprès des industriels de l'automobile européen. Est-ce qu'ils s'attendaient à ce coup de Trafalgar des Allemands ?
Franchement, pas du tout. Hein. Vraiment, ce qu'on entend, c'est « mais qu'est-ce qu'il se passe ?» hein. Ils sont tous interloqués, tous pris de court. Hein. J'ai interrogé pas mal d'industriels qui nous disent que ça amène, en gros, de l'incertitude, alors que 2035, pour un industriel, c'est demain matin chez Valeo, on nous dit très clairement, on n'a plus besoin de gagner du temps, de grappiller 4 ou 5 ans, hein, on est prêt pour 2035. Chez un constructeur automobile français, on nous dit que si cet été, on était vent debout contre la mesure européenne, depuis, on s'est mis en ordre de marche et le plus compliqué, ce sont les allers-retours. Hein. Les constructeurs français ont investi massivement dans l'électricité. On parle de milliards d'euros et aujourd'hui, ils ne savent plus sur quel pied danser.
Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est politique, en fait, finalement, Justine. Hein.
Oui, c'est ce que nous disent les négociateurs à Bruxelles, qui pointent un coupable du doigt. Ce coupable, c'est Christian Lindner, c'est le patron du FDP, le parti libéral-démocrate allemand, qui fait partie de la coalition gouvernementale dirigée par Olaf Scholz, avec les Verts et les sociaux-démocrates. C'est le FDP qui veut absolument autoriser l'utilisation de carburants de synthèse au-delà de 2035. Le FDP, qui est au plus bas dans les sondages en ce moment, on est pris en otage par un parti qui fait 4%, rage un négociateur que nous avons interrogé.
Bon, Arnaud Aimé, qui est avec nous de SIA Partner. Arnaud, vous suivez le secteur automobile. Franchement, personne, ce que disait Justine, personne ne s'y attendait.
Effectivement, ça c'est une vraie surprise, l'opposition allemande à cette loi interdisant la vente de véhicules thermiques après 2035. On sait que l'Allemagne, historiquement, disons depuis quelques années que cette décision se discutait, était réticente. L'Allemagne, c'est le premier pays européen en termes de production de véhicules et d'hébergement de marques, disons. Pourtant, ça avait été voté par le Parlement en 2021, puis à nouveau en 2022. Donc là, c'est une vraie surprise, effectivement. De toute façon, c'est un peu tard maintenant. Comme vous le disiez à l'instant, ce que détestent le plus les industriels, à commencer par les constructeurs automobiles, c'est l'incertitude. Là, ils avaient acquis une certitude qui était la fin du véhicule thermique neuf en 2035. Donc, en fait, ils se sont tous organisés, les constructeurs qui vendent en Europe, pour produire du 100% électrique en 2035, même si ils pensaient pour certains trucs que ce n'était pas forcément la meilleure manière d'aller vers la neutralité carbone de l'automobile. Donc aujourd'hui, les feuilles de route des constructeurs, elles sont bien définies. Elles prévoient la fin du véhicule thermique en 2035, voire pour certains d'entre eux, avant. Certains prévoient de vendre que du véhicule électrique dès 2030, par exemple.
À qui profite le crime, Bernard Cohen-Haddad ? Est-ce que ce coup de Trafalgar, selon vous, c'est un coup du lobby industriel automobile allemand ou est-ce que c'est vraiment une impasse politique, enfin un tour de passe-passe politique ?
Christophe, il y a un mouvement quand même de décarbonation et du non-thermique dans les villes. Je crois qu'il suffit de voir à Paris.
Ouais. Les zones de faible émission.
Les ZFE, les zones de trafic limité, ou les zones de trafic partagé ou protégé. C'est une volonté d'un certain nombre d'élus, des grandes métropoles, surtout en Allemagne, où il reste quand même, il faut le rappeler, un secteur vert politique très important. Ça va dans le sens. Il y a surtout un impact pour nous, ce sera sur l'ensemble de l'écosystème réparation-entretien. Parce que effectivement, l'ensemble de nos réseaux d'entretien des véhicules sont pas toujours prêts, et donc il y a une vraie volonté aujourd'hui de mettre en place des dispositifs de formation, d'accompagnement, parce qu'on ne sait pas comment ces véhicules non thermiques seront traités demain. Parce que les batteries, aujourd'hui, on sait les produire, on ne sait pas les retraiter.
Vous êtes en train de dire qu'il nous faut du temps et qu'on a bien fait de reporter l'échéance ?
Non, ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, c'est bien aussi d'avoir du temps, parce qu'on voit bien qu'il y a aussi une difficulté, y compris pour les populations, de pouvoir se acheter ce type de véhicule, surtout dans le domaine des transports et des gros travaux où on n'a pas de véhicules non thermiques qui peuvent faire ce type de travaux.
Jean-Marc Vittori.
Je crois tout de même qu'il ne faut pas se dire que Christian Lindner s'est réveillé un beau matin en disant ah bon, on va faire, je vais me refaire la cerise en m'opposant vaillamment.
Ça fait deux ans que les constructeurs hurlent.
Il y a les constructeurs allemands sont un lobby extrêmement puissant, extrêmement bien organisé. Je rappelle que quand Angela Merkel était chancelière, elle allait au moins une fois par an en Allemagne parce que les constructeurs automobiles lui disaient qu'il fallait y aller pour faire avancer les pions de l'industrie automobile allemande
en Chine.
Je crois qu'il y a derrière des très fortes résistances allemandes. Vous vous souvenez qu'il y avait eu un petit problème déjà sur des questions énergétiques concernant l'alimentation des voitures en Allemagne, qui est un truc qui s'est appelé le Dieselgate. Il y a une sensibilité extrêmement forte des constructeurs et une organisation extrêmement puissante. D'un côté, alors quand on voit leur belle campagne de publicité, on dit ça y est, on passe complètement au vert. De l'autre côté, il y a une vraie question sur la capacité à y arriver. Et il faut bien voir qu'il y a dans cette toujours dans les questions de transition énergétique, il y a toujours un problème d'effet d'échelle qu'on oublie complètement. C'est-à-dire, effectivement, 2035, c'est demain, c'est dans 12 ans. Tout basculer pour des entreprises qui sont organisées depuis plus d'un siècle avec un mode de propulsion sur un mode de propulsion différent, c'est même très, très compliqué, quoi qu'ils en disent.
Jean-Marc Daniel, ils n'ont rien compris.
Non, je pense qu'ils n'ont rien compris. Il y a une chose qui me réjouit dans cette affaire, moi qui suis né il y a longtemps, donc qui ai connu la 4e République, c'est qu'enfin, elle est en train de revivre. Plus à Paris, mais à Berlin. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement incapable de gouverner avec des coalitions, des gens qui changent de point de vue. Le véritable enjeu dans tout ça, c'est pas le moteur thermique, c'est le score que vient de faire le Parti libéral à Berlin. C'est ça ce qui s'est passé. C'est ça le véritable enjeu. Ils ne seront plus représentés au Conseil sénatorial municipal de Berlin. Et donc, ils ont fait une crise.
Pendant ce temps-là, ça brûle.
C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'il y a de pathétique, c'est que des enjeux dérisoires sont en train de remettre en cause un véritable problème, un véritable enjeu, qui est celui de la décarbonation de l'économie. Mais cette incohérence, elle est partout. Cette incohérence, en France, on a quand même subventionné la consommation de pétrole à l'automne dernier. La semaine dernière, on a appris une bonne nouvelle. On allait relancer les grands prix de Formule 1. J'aimerais savoir.
Ça marche très bien.
Oui, quelle est la trace carbone des prix de Formule 1? Je rappelle quand même que dans les années 70, la question avait été posée dans des circonstances qui étaient des circonstances où on voulait, pour d'autres raisons, éviter de consommer du pétrole, et la décision avait été prise d'alléger la saison de Formule 1. Là,
D'annuler
certains grands prix. Pas du tout, là. Et donc, cette incohérence est absolument dramatique parce que la population ne peut pas prendre au sérieux des enjeux qui sont extrêmement lourds.
Jean-Marc Bernard rappelait que pour beaucoup de gens, ça sera trop cher l'électrique. Et qu'il faut de laisser du temps au temps pour les réparateurs.
Fabien Roussel, Jean-Marc, hier dans le Figaro, était justement sur ce problème aussi des zones de faible émission et cette incapacité pour beaucoup de ménages moyens de se doter demain de véhicules propres. Donc c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Espagne, c'est vrai en Italie. Il y a une réalité quand même. Donc il faut être assez prudent. Il n'y a pas que les grands moyens de l'industrie automobile. Et puis je vous dis, il y a un certain nombre de secteurs qui ne peuvent pas bénéficier de véhicules non thermiques, et ça aussi, c'est important de le rappeler.
Non, mais je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que dans cette affaire, effectivement, le pouvoir d'achat monétaire va baisser. Mais parce qu'en regard, on va acheter le pouvoir de vivre. Enfin, c'est quand même extraordinaire à considérer. Écoutez, vous savez, on va supprimer 150 000 emplois dans l'automobile, et on va peut-être perdre 5% de pouvoir d'achat. Moyennant quoi, si on garde ce 5% de pouvoir d'achat, la génération d'après n'aura même pas le droit de vivre. Donc je pense qu'entre 5% de pouvoir d'achat et le droit de vivre, l'arbitrage se fait très rapidement, quand même.
On a un militant maintenant forcené chez Jean-Marc Daniel. Mais, il a raison.
Je vois Arnaud Aimé qui passe par toutes les émotions. Là, vous souriez,
émotion globalement positive par rapport à ce que dit Jean-Marc Daniel. C'est-à-dire qu'on a, on sent plutôt une tambouille politicienne et électorale en Allemagne. Et d'autant plus que les constructeurs automobiles, qui sont un fort lobby en Europe, ils ont beau hurler, comme vous disiez, ils ont hurlé, mais aujourd'hui, ils ont pris le pas. La marque Volkswagen, elle va produire que de l'électrique en 2035. Audi, que de l'électrique dès 2030. Donc, ils ont déjà pris le pli. Et ils ont arrêté, les Allemands comme les autres Européens, ils ont arrêté de recruter à tout va des techniciens et des ingénieurs dans la motorisation thermique. Donc, on a du mal à voir la logique, sauf s'il s'agit de mettre la pression au pouvoir public et à l'Europe pour autoriser, aujourd'hui il y a une clause de revoyure en 2026, pour autoriser le carburant de synthèse.
Eh bien, exactement. Merci pour cette magnifique transition, Arnaud Aimé. Vous restez avec nous, bien évidemment. Le carburant de synthèse, c'est l'argument des Allemands en disant, on peut, plutôt que d'aller sur la batterie électrique pendant quelques années encore, faire tourner des moteurs avec un nouveau carburant qui s'appelle le carburant de synthèse, qui est produit à partir, mais je vais laisser Jean-Baptiste Suet vous expliquer, de CO2 et d'hydrogène. Sauf que le problème, c'est que le carburant de synthèse, Jean-Baptiste, on n'en a pas beaucoup. Et qu'en plus, l'aviation, les avions en réclament aussi. Expliquez-nous tout ça.
Qu'est-ce que le hasard fait bien les choses.
Mais oui.
Puisqu'aujourd'hui, l'Académie des technologies, qui est dirigée par Denis Ranc, qui compte en son sein un peu plus de 300 chercheurs, divers et variés, remet un rapport justement sur la décarbonation de l'aviation, dans laquelle, en substance, il dit la voie royale pour décarboner l'aviation, c'est et ce sera pendant au moins 30 ans les carburant de synthèse.
Donc c'est plus l'hydrogène, les batteries.
Ce sera beaucoup plus tard. Ah. Il faut décarboner en masse. Et donc pour décarboner en masse, il faut décarboner ce qui existe déjà, à savoir des flottes relativement modernes qui vont durer sur 15, 20, 30 ans. Donc il faut décarboner ces flottes-là. Et pour les décarboner, donc c'est les carburants de synthèse, du carbone et de l'hydrogène. Voilà, pour faire du méthanol de synthèse. Voilà l'idée. Sauf que cet hydrogène dont on va avoir besoin pour faire des carburants de synthèse, il faut le produire. Et c'est un processus dont on parle souvent sur BFM Business, qui est l'électrolyse. Et l'électrolyse va demander énormément d'électricité. Et ce que dit aujourd'hui le rapport de l'Académie, c'est que si, alors, d'ici 2040, pour faire émerger une filière de carburants de synthèse, a priori, il n'y a pas trop de problèmes. Là où ça se complique, c'est 2040-2050, où là, ce que dit le rapport de l'Académie, il va falloir doubler notre production énergétique actuelle
électrique.
En France, électrique, absolument. Doubler la production électrique en France et chez nos voisins, et la tripler au niveau mondial.
Ah oui.
Donc le défi qui est devant nous est saisissant, en tout cas, paraît difficilement.
Jean-Marc Vittori, décarboner c'est bien, mais en fait il n'y en aura pas pour tout le monde, puisqu'on voit l'automobile qui veut des carburants de synthèse, l'aviation aussi. Ce matin, Denis Ranc, qui était avec nous à 7h20, nous disait il faudrait presque que nous on soit prioritaire. C'est aussi une question politique.
Mais bien sûr, et ça renvoie à la question du passage à l'échelle. Je le rappelle, la plus grande difficulté qu'on va avoir dans la transition écologique, une fois qu'on aura accepté l'idée de perdre du pouvoir d'achat, c'est le passage à l'échelle extrêmement rapide. Il faudrait des sources d'énergie, il faudrait des quantités absolument colossales d'électricité, puisque l'électrolyse, ça se fait avec de
ressources critiques, l'électricité.
Il faut des ressources absolument colossales d'énergie, d'électricité extrêmement rapidement. Cette électricité, il va falloir notamment des ressources en métaux qui sont absolument colossales aussi. On a un problème de passage à l'échelle sur l'ensemble de la transition. On a des prototypes qui sont extrêmement performants partout, mais pour faire le passage à l'échelle dans une société où on a des milliards de femmes et d'hommes qui consomment de l'électricité, qui se déplacent, qui chauffent leur logement, il faut des quantités dont on n'a absolument pas, je trouve, la capacité pour l'instant d'imaginer ce passage à l'échelle.
Et encore faudra-t-il que nos EPR fonctionnent. Bernard Conadad.
Oui, moi je suis pour une économie, comme dit Jean-Marc, plus verte, plus humaine, plus responsable, plus circulaire, mais ça prend du temps et ça coûte beaucoup d'électricité.
Hey, gros bémol quand même.
Mais oui, et c'est là justement où le bât blesse, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps pour les industriels, il faut du temps pour les politiques, qu'ils arrêtent aussi de faire mettre en place des mesures politiques combinatoires, parce qu'on est souvent devant le fait accompli. Et puis le temps aussi pour les citoyens de digérer, et pour notre économie de faire cette autonomie stratégique, parce qu'on a besoin aussi de cette autonomie stratégique et énergétique, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui.
C'est intéressant, Bernard Conadad, parce que vous allez mettre en porte-à-faux Jean-Marc Daniel, qui d'habitude...
J'adore mettre en porte-à-faux Jean-Marc Daniel.
Parce que d'habitude, il nous dit il faut laisser les entreprises, les acteurs de l'économie s'organiser, mettre... Là, il met des injonctions politiques. La fin du monde, c'est pour demain, et donc il faut donner des injonctions politiques.
Non, pas du tout, parce que je pense que la fin du monde...
On comprend mal, le Jean-Marc Daniel.
La conscience de la fin du monde, elle n'est pas uniquement entre les mains des États et des gouvernements. Je pense que la conscience des dangers, elle est partagée par l'ensemble de la population.
Ah, sauf que les entreprises, elles ont un bilan et un compte de résultat tous les ans.
J'entends bien, mais face à ça, la seule action que peut faire l'État, c'est effectivement de donner un prix au carbone. Donc, on en revient à la taxe carbone. Et le choix entre l'aérien et l'auto. Mais c'est le consommateur qui le fera.
Pour qui on donnera les carburants de synthèse?
Les carburants de synthèse,
à qui
paiera sur la base des consommateurs
qui l'auront... pourra payer.
Sur la base des marchés dont il disposera. C'est-à-dire que le but de l'avion, c'est pas de voler. Le but de l'avion, c'est de transporter des gens. Et donc, le véritable juge de paix d'un avion, c'est la quantité de gens qui sont disposés à le prendre.
Jean-Marc Vittori, vous croyez que le marché, comme Jean-Marc, peut permettre de tout résoudre aussi facilement?
La transition énergétique, si on veut la réussir, il faudra tout. Il faudra le marché, il faudra les capitaux du marché et du capitalisme, absolument. Et il faudra aussi des réglementations intelligentes. Et ça, c'est un sacré chantier.
Arnaud Aimé, qu'est-ce qui mérite le plus ces carburants de synthèse? C'est l'aérien, c'est l'automobile, il n'y en aura pas pour tout le monde.
Alors, je pense que ce serait quand même plutôt l'aérien, parce que l'automobile en Europe, c'est depuis 2 ans, depuis la perspective 2035, même si elle est remise en cause aujourd'hui, et c'est largement engagé dans le tout électrique. Et ce tout électrique, il est plutôt avec un stockage de l'énergie à bord sous forme chimique, c'est-à-dire sous forme de batterie. Il y a aussi des tentatives de véhicules à hydrogène pour 2035, mais qui sont beaucoup plus assez mineurs, disons, pour l'instant, par rapport au stockage chimique sous forme de batterie. À l'inverse, dans le secteur aéronautique et aérien, je pense que le carburant de synthèse, il a toute sa place. En fait, on en emprunte déjà la voie aujourd'hui. En développant les biocarburants. Le biocarburant, c'est quoi? C'est du kérosène classique dans lequel on injecte aussi une partie de carburant, disons, bio, qui réduit les émissions de carbone et qui permet d'utiliser les mêmes appareils. Le problème, quand on construit un nouveau modèle d'appareil, un Airbus ou Boeing, c'est qu'il faut au moins une vingtaine d'années pour développer un nouveau programme. Là, c'est les biocarburants actuels et demain, les carburants synthétiques évitent d'attendre que les constructeurs aéronautiques construisent des nouveaux modèles.
Merci Arnaud. On ne va pas faire semblant d'être dans notre tour d'ivoire, de ne pas voir qu'ailleurs, en dehors, dans la rue, il y a une sixième mobilisation contre la réforme des retraites. À quoi ça sert finalement? Parce qu'on sait que le Sénat va adopter le texte, la commission mixte paritaire va peut-être l'adopter dès la semaine prochaine. La réforme des retraites pourrait être votée dès le 16 mars. C'est un scénario qui court ce matin. Alors, à quoi ça sert, cette réforme des retraites qui va rapporter si peu d'argent? Jean-Marc Vittori, vous avez une thèse particulière, vous, aujourd'hui, hein?
Oui, enfin, une hypothèse. Une hypothèse. Moi, je pense que c'est en fait un formidable paratonnerre pour oublier tout ce qui se passe sur les salaires.
Ah.
Parce que les syndicats et les salariés se mobilisent à fond contre cette réforme des retraites.
Ils ont rien, donc. Hein.
Ils ont l'habitude de le faire. Hein. Depuis 30 ans, il y a des mobilisations répétées contre les retraites. Toutes les plus grandes manifestations qu'il y a eu en France depuis 30 ans, c'est sur cette question des retraites. Donc ça, on a l'habitude, on sait faire, etc. Et pendant ce temps-là, on oublie qu'il y a l'inflation qui fait une morsure sur le pouvoir d'achat, comme il n'y en a pas eu depuis plusieurs décennies. Et quand vous regardez, moi, je me suis refait le petit film de l'histoire sociale de la France depuis un siècle, on n'a jamais eu deux mobilisations successives rapprochées sur deux thèmes complètement différents.
Il faut choisir son combat.
Voilà, il faut choisir son combat. Donc là, les salariés et plus encore les syndicats ont choisi les retraites. Donc voilà, advienne ce qu'il adviendra de la réforme des retraites. Mais du coup, une mobilisation très forte sur les salaires, qui paraît très logique vu le contexte actuel, paraît extrêmement peu probable.
Donc on n'aura pas de gilets jaunes grâce à la réforme des retraites.
Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'autres
c'est
formes.
C'est pas si mal comme
moi, je pense que ça. Non, mais je pense que d'autres la formes. Question du pouvoir d'achat ressortira sous d'autres formes qui sont totalement imprévisibles.
Bernard Cohen-Haddad.
Oui, je partage l'avis de Jean-Marc, parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est l'augmentation du prix, la réduction des marges pour les petites entreprises, ça il faut le dire. Donc aussi pour nos entrepreneurs et pour nos collaborateurs, c'est gommé par cette réforme de retraite et l'âge de 64 ans, mais le vrai problème, c'est le problème du pouvoir d'achat, de la vente aussi, des produits à bon prix, à juste prix, de marge quand même, quoi qu'on dise, de la grande distribution. Je sais, Christophe, là-dessus, c'est un peu mon dada, mais que ceux qui se pleurent aujourd'hui dans les médias de la grande distribution sont pas les plus mal lotis quand ils pressent les prix de leurs fournisseurs, surtout quand c'est des PME de proximité. Et il y a un vrai enjeu de qualité de vie et de la capacité à mieux vivre, à mieux travailler dans les régions, c'est une réalité. Et donc, tout simplement, de faire du sport, d'aller faire la culture, d'aller au cinéma, etc. Et là, c'est peut-être le boomerang qu'on va avoir dans quelques mois. Mais il y a une volonté du gouvernement de scinder les deux combats et de scinder les deux problématiques, Jean-Marc.
Stratégie politique. Jean-Marc, Daniel...
Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. En deux mots, je pense que de toute façon, le problème des salaires ne se pose plus comme dans les années 70, parce qu'il n'y a plus de politique de revenus, il n'y a plus de négociations centralisées, et donc de ce fait, les syndicats nationaux n'ont plus la main sur ce genre de dossier. En revanche, je pense que le gouvernement, lui, il est sur cette affaire avec une urgence. Il y a encore le gouverneur de la Banque centrale d'Autriche qui a fait un dégagement très virulent bilan contre la politique monétaire et contre les pays du Club Med, et singulièrement la France et l'Italie. Et donc, la France ne peut se financer que s'il y a la certitude, la garantie que la Banque Centrale Européenne pourra continuer à absorber une partie de la dette publique.
Et est-ce que cette réforme des retraites est vue comme étant une réforme qui permettra de baisser effectivement le poids de la dépense publique et de
C'est un symbole, c'est un symbole. Et ouais. L'enjeu, c'est pas tellement la dépense publique.
Il n'y a pas que le symbole qui compte, il y a aussi les milliards d'euros d'économies qu'on peut faire.
Mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est encore une fois la quantité de travail qu'il y a dans ce pays. Quand vous regardez les documents qu'on envoie à Bruxelles, l'enjeu, c'est pas de dire on va équilibrer plus ou moins bien le système de retraite, c'est qu'on va davantage dégager de croissance économique parce qu'on va mobiliser du travail.
Mais le gouvernement n'a jamais assumé.
Jamais.
De dire qu'il faut travailler plus,
Il a un discours vis-à-vis de Bruxelles et de nos partenaires européens et un autre discours qui n'est pas le même que celui vis-à-vis de la population, où il est persuadé que la population est sensible à l'équilibre financier, alors que je pense là aussi que la population serait sensible à un discours sur la nécessité de l'effort.
Merci à tous les six, parce qu'on était six pour le débat aujourd'hui, d'être venus dans Good Morning Business.